France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et en voilà un qui a la création heureuse. La recherche du style, c'est la maîtrise de la jouissance, dit-il, entre joie fondatrice et gai savoir. Vincent Bioulès est peintre et paysagiste, cofondateur du mouvement Support Surface dans les années 70, avant de prendre le large de l'abstraction pour retourner à la figuration. Jusqu'au 6 octobre, le musée Fabre de Montpellier consacre au peintre montpelliérain une très belle et grande rétrospective en partenariat avec France Musique intitulée Vincent Bioulès, chemin de traverse, où il montre ses paysages, des nus et des portraits jusqu'à ses premières abstractions. Bonjour à vous, Vincent Bioulès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce
matin. C'est moi qui vous remercie.
Une personnalité caméléon, voilà ce que dites-vous, Michel Hilaire, le commissaire de l'exposition, éclectique dans les formes et dans les sujets. On peut quand même aussi souligner, malgré la diversité, la grande cohérence de votre œuvre. Où vous la placez, vous, cette constance?
Je la place finalement dans le fait d'avoir aimé d'abord, tout au début de ma vie, tout au début de ma vie de peintre, les peintres primitifs italiens. Et que j'ai considéré après, au moment où j'ai fait de la peinture non figurative, que j'ai considéré au fond comme les pères fondateurs mystérieux et de la peinture abstraite. Quand on regarde, mettons, Piero della Francesca ou Frangelico, on est loin d'impressionnisme. Et donc, lorsque j'ai fait de la peinture abstraite, je n'étais pas en rupture avec ce que j'avais aimé enfant et adolescent. Et ensuite, lorsque la peinture abstraite m'est apparue comme insuffisante pour exprimer ce que j'avais envie de dire, elle m'avait tout de même profondément structuré. Et c'est pour ça que j'ai pu ensuite peindre des paysages et des intérieurs, des personnages, avec une sorte de sécurité. J'ai toujours été dans la sécurité, mais avec une influence de la peinture abstraite que j'avais fait par le goût de la composition, le goût de l'organisation de la surface.
Cette insécurité, cette peur du confort, elle vous a aussi travaillé durant toutes ces années, ne jamais s'enfermer dans un moule, voilà ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut continuer avec son pinceau, avec son crayon, parce que ça passe d'abord par le dessin, à toujours explorer les formes, les motifs, rechercher, c'est une part importante de la création.
Oui, si vous voulez, on est déplacé par la peinture, parce que quand on commence, tout d'un coup on a envie de faire un tableau, alors on a une petite idée bien sûr, alors d'abord je sais qu'on fait pas des tableaux avec des idées, mais avec des émotions et des sentiments, mais il y a quand même aussi des idées, nous sommes obligés de penser nos tableaux, et puis au fur et à mesure que nous avançons dans la réalisation du tableau, ce tableau nous déplace et nous fait découvrir des choses que nous ne connaissions pas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à une sorte de maïeutique dans le travail de la peinture, qui met à nu des zones de nous-mêmes dont nous ignorions l'existence. Et tout d'un coup, on se trouve dans une position qu'on n'avait pas du tout imaginée, et on était obligé de faire autre chose.
C'est une forme d'introspection, mais c'est aussi une mise à nu du regard. Quand vous arrivez devant un paysage, que vous vous dites « ça, je vais le dessiner, je vais le peindre », il y a ce qu'on voit à première vue, et puis il y a la réalité, le réel, qui est tout autre, souvent, quand on regarde mieux.
Oui, alors ça, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question. J'ai une voiture, une vieille voiture qui serait interdite absolument à Paris, je me ferais arrêter tout de
dans
suite.
Dans le sud, elle est autorisée, alors.
Enfin, elle passe, parce que par les chemins de traverse, justement. Donc, et qui est une voiture atelier. Et alors, je me balade. Alors, je regarde les paysages. Et soudain, j'ai très envie de peindre. Il y a quelque chose dans la lumière, dans les formes que je perçois, au fond, dans le paysage que je regarde, qui me donne envie de travailler, envie de peindre. Alors, je m'installe. Et à peine me suis-je installé et à peine ai-je commencé à dessiner, à peine que je ne vois plus rien. C'est-à-dire que ce qui m'avait subjugué, tout d'un coup a disparu. Et je me trouve confronté avec quelque chose de très mystérieux, qui est tout simplement ce qui est devant nous, ce qu'on appelle le réel, et qui est une chose où on le regarde pas. On peut très bien ne pas y prêter attention et tout va très bien. Mais si on le regarde avec un peu d'intensité, pour le peindre, eh bien, il nous échappe, et ce n'est que par l'exercice du dessin et de la peinture que nous pouvons le conquérir à nouveau, et tout d'un coup découvrir ce qu'il est en fait, ce qu'il est réellement. Et ce qu'il est réellement, c'est un tableau, c'est ce que j'appelle une figure syntaxique qui est comme le langage.
C'est pour ça que vos couleurs, Vincent Biolès, sont aussi intenses. Ce jaune de la ferme de Méjean, ces bleus de la terrasse à la Villa Bianco par Mistral, toutes ces couleurs que vous utilisez, elles sont la traduction de cette intensité du sentiment.
J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec un ami peintre qui lui peint avec le moins possible de couleurs. Alors je sais, on m'a donné de bons principes et je sais qu'on peut peindre avec très très peu de couleurs, mais j'aime les couleurs comme j'aime les instruments de musique. Par exemple, si j'avais écrit de la musique, j'aurais écrit des quatuors à cordes, mais j'aurais aimé écrire de grandes pièces symphoniques très très colorées, parce que je suis passionné par les sons des instruments. Et je collectionne les couleurs comme si je collectionnais des sons. Et pareil, vous parliez de jaune. Ce jaune est un jaune qui a, à un moment donné, été broyé par la maison Le Franc, qui s'appelait le jaune soufre. Et c'est un jaune dont je me suis beaucoup servi et dont je me suis aperçu dans l'exposition qui sert de trait d'union entre plusieurs tableaux, parce qu'il s'y trouve présent. Mais un peu comme si j'avais choisi un instrument, mettons un hautbois ou un cor anglais, ou voilà quelque chose de cet ordre.
Vous évoquiez, Vincent Biolès, les pères fondateurs italiens. Vous dites aussi qu'il ne faut jamais se contraindre à être ou à faire original. Il faut accepter que l'art, la peinture, est une revisitation permanente de l'histoire de l'art. Et dans cette histoire, certains vous ont guidé, tel Henri Matisse.
Il y a 55 ans, j'ai fait ma première peinture. J'ai donc une certaine expérience de mon métier. Eh bien, si on me demandait quelle est la principale qualité pour l'artiste, je répondrai sans hésiter, le travail assidu, sans lequel rien n'est possible, même pour un homme très doué.
Monsieur, quelle est votre œuvre préférée?
En général, je préfère l'œuvre que je viens de terminer, parce que j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais dessus, et quand je l'ai déclaré terminé, c'est que vraiment je ne peux pas aller plus loin.
Quelle est la période de votre vie qui a été pour vous la plus agréable?
La purée, celle où je ne vendais pas mes tableaux, où j'étais tout seul à les aimer, sauf quelques-uns, mes amis. Alors là, j'aimais mes tableaux comme une mère aime ses enfants malheureux. Et puis, ils n'avaient pas d'importance, au fond, parce que c'était un jalon sur ma route, et que c'était un peu comme un écrivain considère ses brouillons. N'est-ce pas ? Une fois qu'il a fait un brouillon, eh bien, ce brouillon est remplacé par celui qui succède.
Henri Matisse en 1953.
Oui, c'est très émouvant d'entendre ça. Oui, alors il a écrit des choses que j'avais lues qui allaient tout à fait dans ce sens. Et je retiens une chose qu'il vient de dire là. Le moment où j'ai été le plus heureux pour peindre, je pense que c'est quand j'ai quitté Paris en 64 et je suis revenu dans le Midi. J'ai eu un moment très difficile entre 64 et 65 où j'étais influencé par des peintres que j'avais vus comme Fautrier, des peintres un peu sombres, un peu dramatiques, mais qui ne collaient pas à moi-même, au fond, que j'aimais formellement, mais avec lequel je n'avais pas de complicité réelle. Et puis tout d'un coup, j'ai peint spontanément un arbre en fleurs que j'apercevais par la fenêtre de la atelier que j'avais à l'époque, et je me suis senti complètement libéré, et je suis entré dans une période de grande euphorie picturale de 66 à 68-70. Et effectivement, c'était une époque où nous ne vendions pas nos tableaux, et où surtout nous n'avions absolument pas l'idée de devenir des peintres reconnus, célèbres, qui fassent partie de l'histoire. On se moquait de tout ça. Il y avait une sorte de grande liberté intérieure et intellectuelle et physique. Et puis ensuite, on avait l'énergie d'un homme qui n'avait pas encore tout à fait 30 ans. Donc, tout ça était un ensemble très, très fort et très chaleureux que j'ai beaucoup aimé. Et c'est le moment de ma vie, c'est un des moments de ma vie que j'aimerais revivre.
Cette période où vous quittez Paris, vous retournez à Montpellier, c'est la période des marronniers que vous peignez en 1965. C'est aussi le moment où vous renouez le lien avec votre territoire, avec votre culture, les attaches.
Oui, c'est vrai. Alors, j'ai pas mal voyagé, et je suis bien partout aussi. Enfin, je pourrais dessiner en Picardie avec beaucoup de plaisir, mais je suis attaché. Alors là, pardonnez-moi de parodier Cézanne, je suis attaché à la configuration de mon pays. Et c'est là où j'ai découvert le désir de peindre. Et donc, pourquoi m'en priver ?
La configuration de votre pays, qui est très important aujourd'hui encore pour vous. On a évoqué ces deux lignes de force qui vous guident, percer le mystère du monde et s'émerveiller, l'émotion, le sentiment, l'enchantement qui sont au cœur de votre démarche. Est-ce que le réel vous surprend encore aujourd'hui, Vincent Bulez ?
Ah oui, 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 tout à fait. Je vais régulièrement dîner au bord de la mer avec ma femme le samedi et nous passons devant un étang qui s'appelle l'étang de l'Or, qui était à ma gauche. Et ma femme me dit « Regarde, regarde, voilà, il y a un autre tableau à faire. » Et je pourrais incessamment peindre cet étang et ce ciel parce que il change. Toutes les demi-heures, en fait, toutes les demi-heures, il y a un autre spectacle. Et c'est un enchantement. Et ça, je ne m'en suis jamais lassé. Et puis ensuite, je suis très ému par ça. Et j'ai toujours considéré que l'émotion, c'était la voie royale de la connaissance. C'est pas l'intellect. Après, il faut que l'intellect intervienne, bien évidemment. Il faut pas en rester simplement à la pulsion. Mmh. Mais s'il n'y a pas l'instinct, si l'instinct n'est pas au poste de commandement, il y a quelque chose qui va nous conduire à l'académisme.
C'est pareil pour le regardeur, hein, pour le spectateur, celui qui voit vos toiles. Vous allez chercher l'émotion avant la raison, la compréhension de l'œuvre.
Ben je le souhaite. Ça me ferait très plaisir si c'était ainsi.
Serret, un peintre en son pays. Il a été votre professeur aux Beaux-Arts de Montpellier, Camille Descossy.
Descossy,
pardon, sur l'art et la méthode.
La méthode de travail, c'est de l'artisanat tout à fait bête et tout à fait banal.
Difficile à apprendre parce que c'est long. Et qu'on ne l'apprend pas par correspondance, il faut vraiment travailler, gâcher de la toile, gâcher des pinceaux, gâcher des couleurs. Je n'ai pas de méthode, je pense que j'aime bien peindre, c'est tout. J'aime faire mon métier d'artisan peintre. Là, évidemment, on pourrait beaucoup, beaucoup penser à perdre son temps à raconter des histoires sur les théories de la peinture, mais en réalité, là aussi, c'est la simplicité du métier qui est vraiment la plus difficile des choses à atteindre.
Alors il y a une syntaxe, Vincent Bulez, vous nous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi une méthode ?
Alors Descossy, je connaissais très bien, il avait une voix magnifique dont il savait jouer, c'est un très grand séducteur. Et alors il m'a appris les rudiments du métier de la peinture à l'huile avec beaucoup de fermeté et de simplicité, et ça je lui en suis parfaitement reconnaissant. Et je me suis plu à réécrire sur tous les murs des ateliers où j'ai enseigné les règles fondamentales qu'il nous avait apprises. Et on se moquait un peu de moi comme si c'était des recettes de cuisine, mais ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Alors Descossy aurait pu en faire plus, s'en servir davantage, mais il avait une sorte d'ironie, de détachement vis-à-vis de la vie et de la peinture, qui fait qu'il n'a pas complètement exploité tout ce qu'il aurait pu faire. Mais il m'a beaucoup appris.
Serret, c'est le village, ville des peintres.
Alors Serret, ouais. Oui, ça.
Vous y avez exposé, vous y avez peint aussi.
Alors j'ai été invité par Joséphine Matamoros, qui était alors la conservatrice du musée de Serret, et elle voulait faire une exposition de moi. Alors elle m'avait dit, on fera une exposition en 2008. Et puis en 2005, elle me dit, il faut avancer les dates, il faut faire l'exposition en 2006. Et elle m'a fait visiter le musée, elle m'a dit « je te donne toutes les salles, voilà, il faut que tu fasses des tableaux sur le thème de Serret ». Alors j'étais avec
Est-ce que c'est là que vous avez réalisé notamment ce nocturne à Serret ?
Oui, oui, oui. Alors tout n'a pas été réalisé à Serret même, parce que j'ai beaucoup travaillé à Serret, j'ai fait beaucoup d'études d'aquarelles, de dessins, de pochards, de tempéra, et ensuite j'ai réalisé les très grands tableaux à l'atelier de Montpellier. Mais j'ai été mis là dans un état d'urgence, et au début j'ai dit non, c'est pas possible, et puis en rentrant à Montpellier en voiture, j'ai dit si, il faut accepter, c'est une très trop belle occasion pour dire non. Et là, ça a été un grand moment aussi pour moi, parce que j'aime beaucoup travailler sur un thème, et au fond, j'aime beaucoup travailler avec une obligation, avec la nécessité de rendre quelque chose au bout d'un certain temps, d'avoir un espace de travail très précis. Et je crois que les grandes œuvres des hommes ont toujours été des œuvres commandées.
Serrer le jour, c'est une lumière presque blanche, hein, comme on peut le voir sur cette place que vous avez peinte aussi, Vincent Biulez. Serrer la nuit, c'est cette ombre qui plane.
Oui, alors là, c'était très mystérieux, la nuit à Serrer. Ouais. Je m'y suis promené beaucoup. Et
Là, dans cet exemple, par exemple, qu'est-ce qui va retenir votre attention? C'est une tonalité? C'est un détail?
Ben c'est le mystère de ces platanes dont on devine la présence et qui sont... Il y a une lumière très mystérieuse la nuit, parce que même dans la nuit la plus... Une nuit sans lune reste quand même transparente et très mystérieuse, et ces arbres formaient une sorte de tissage très étrange sur le ciel et sur les maisons.
Simon Antaille, vous savez ce qu'il disait sur la lumière?
Dans les... pliage, au fur et à mesure que je peignais, le blanc et le long peintre apparaissaient plus en plus actifs, à la fin pratiquement seul actif. Tout ce que je veux savoir là-dessus, c'est la lumière, c'est nécessairement le fondement du monde. C'est l'ouverture. Alors, bon, mais nécessairement, c'est ouverture sur l'infini. Je veux dire que c'est pas une question que je veux une réponse avec laquelle je m'assure de quelque chose, je veux justement aucune réponse. Je veux l'absolue non-réponse, c'est-à-dire l'infini.
Peintre français Simon Antaille avec ce R qui rappelle ses origines hongroises. La lumière, c'est le fondement du monde.
Oui, alors il se peut d'ailleurs que la lumière que nous percevons et qui nous enchante soit le témoignage d'une lumière fondatrice beaucoup plus secrète et peut-être qui appartient ou qui appartiendra à un monde que nous ne connaissons pas. Comme si, au fond, la lumière de la vie quotidienne n'était autre que le reflet d'une lumière éternelle. Et on ne peut pas imaginer de faire de la peinture sans lumière. Et alors, Antaille exprime ça d'une manière plus, justement, plus mystique, plus définitive. Moi, je l'exprimerais d'une manière peut-être avec plus de doute, mais je comprends très très bien ce qu'il veut exprimer.
Vous faites, vous, le lien, d'ailleurs, entre votre foi catholique, entre le mystère de la création et celui de la création artistique. Vous dites qu'il y a des ponts, vraiment, entre ces deux ressentis, ces deux croyances aussi. Hein.
Oui, je voyez-vous, je pense que quand on a... c'est très difficile de parler, de dire qu'on a la foi. La foi, c'est simplement avoir confiance. Et je pense que cette confiance que nous éprouvons face à la nature et face au monde, c'est tout simplement reconnaître que tout ça s'est fabriqué par de l'amour.
Et le miracle, il est dans la nature.
Il y a des gens qui croient pas au miracle. Alors bien sûr, moi je sais très bien que l'arc-en-ciel c'est un phénomène optique, mais c'est aussi un miracle. Parce qu'on voit pas pourquoi des choses qui sont matérielles ne seraient pas miraculeuses. Un soleil couchant splendide, comme il en existe, au mois d'octobre, mettons dans le midi de la France, où il y a d'immenses champs de nuages rouges, liserés d'or. Ce sont de véritables miracles visuels que l'on peut exprimer scientifiquement parlant. Mais ça ne me gêne pas du tout. Une explication scientifique ne détruit jamais, à mes yeux, l'explication poétique que l'on peut en donner.
Bon, il y a d'autres miracles quand même à voir. Vos œuvres aussi, Vincent Biulez, c'est peut-être celui du corps des femmes, parce que dans cette exposition au Musée Fabre actuellement à Montpellier, cette rétrospective qui vous est consacrée, il n'y a pas que vos paysages, il y a aussi des portraits et des nus.
Des portraits et des nus. Ça correspondait à un moment très très important de ma vie, où comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai éprouvé le besoin de faire une cure de dessin. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'enseignement que nous avions reçu, notamment celui de Descoussi, et puis de son confrère, de Zeus, c'était un très bon enseignement. Mais ces messieurs étaient trop gentils. Et ils ne nous ont pas donné l'enseignement sévère que j'aurais aimé recevoir, comme si j'avais été dans un atelier au moment de la Renaissance. J'aurais aimé ça. Et alors donc, je me suis imposé à un moment donné de réapprendre le dessin. Et je l'ai réappris en dessinant avec mes étudiants. Et j'ai toujours dessiné avec eux. Et par exemple, en mai 68, bien avant que je ne fasse cette cure de dessin, je n'ai jamais eu de problème de conflictuel avec mes étudiants, parce que je dessinais avec eux. Donc j'étais comme eux, j'étais simplement un homme plus vieux, j'avais un peu plus d'expérience que mes étudiants, mais sans plus, mon statut était le même, puisque nous éprouvions les mêmes difficultés devant le modèle. Et alors ensuite, j'ai fait poser des femmes, j'ai fait 12 tableaux dans le fauteuil de l'atelier que j'ai installé. Alors qu'il y avait une sorte de support très abstrait qui était la forme du fauteuil, la division du fond en deux plans, et puis ensuite les poses prises par les femmes dans le fauteuil. Alors, on a dit que j'avais été une jeune femme que je connaissais, m'a dit que ces tableaux étaient d'une cruauté absolue et qui n'étaient pas du tout des tableaux sensuels. Alors, il est d'abord très difficile de définir ce que nous appelons sensualité, parce que ça dépend quand même des gens, et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'il y a des quantités d'expériences à faire.
Ça répondait à votre définition de la sensualité.
Mais ça que j'ai essayé de mettre à distance, justement, ces corps, au fond de les exhiber. Et c'était quelque chose qui était peut-être un peu cruel, d'ailleurs.
Elle avait raison.
Voilà.
Elle avait raison. Le concepteur du MUCEM à Marseille, l'architecte du Sud, lui aussi, Rudy Ricciotti, tempêtait récemment encore dans un livre contre l'exil de la beauté, des paysages défigurés, du développement urbain sans parti pris esthétique. Il a, lui, cette belle définition de la beauté. La beauté, c'est au minimum ce qui produit l'émotion, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être fiers de constater que la laideur ne nous a pas totalement envahis. Est-ce que c'est aussi votre définition de la beauté, Vincent Gullès?
C'est ce que j'aimerais, mais c'est vrai que dans le Midi où j'habite, il y a une anarchie dans la construction qui est absolument terrible, et que les villes ont explosé, et sans plan, on est allé très très vite, il y a très peu d'endroits qui ont été vraiment bien dessinés. Nîmes a mieux résisté que Montpellier à ça, parce que Bousquet était un maire qui avait du goût et qui a dessiné des espaces avant de les peupler, notamment les zones industrielles. Il a d'abord dessiné les zones, établi des plans, des avenues, de la végétation, et à l'intérieur desquelles on a inséré, par exemple, les bâtiments industriels ou artisanaux. Et donc, il y a quelque chose qui est plus maîtrisé. À Montpellier, ça a une rapidité de développement très très grande, et il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des choses qui sont très vivantes, hein, parce que aussi le désordre, c'est beau. C'est-à-dire, quand il y a la beauté n'est pas académique. Donc, il peut y avoir dans cette espèce d'explosion quelque chose qui est magnifique. Mais alors, on se retrouve plutôt dans le camp des écrivains ou des cinéastes que des peintres.
Et vous voilà donc en gardien de la beauté et en gardien de la mémoire aussi de ces paysages à travers vos œuvres, hein, Vincent Gullès. C'est un peu ça.
Peut-être, j'essaye de faire ça, mais je sais que le monde que j'ai profondément aimé est un monde qui est en voie de disparition.
Bon, mais vous êtes bel et bien là. Merci beaucoup à vous, Vincent Gullès, d'avoir été avec nous. Cette exposition rétrospective qui vous est consacrée actuellement au Musée Fabre de Montpellier. Vincent Gullès, Chemin de Traverse, est à voir jusqu'au 6 octobre.